VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. L'Afrique du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale. Conformément à la procédure, Pretoria a annoncé par écrit au secrétaire général de l'ONU son retrait de la CPI, a déclaré le ministre sud-africain de la Justice, Michael Masuta. Une décision qui prendra effet dans un an à compter de la date de réception de la lettre adressée mercredi aux Nations Unies, a souligné le ministre sud-africain lors d'une conférence de presse ce vendredi. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
L'Afrique du Sud avait exprimé il y a un an l'intention de quitter la CPI après les critiques émises à son encontre pour ne pas avoir exécuté un mandat d'arrêt lancé contre le président soudanais Omar Hassan al-Bashir, accusé de génocide et de crimes de guerre lors d'une visite de ce dernier en 2015. Plusieurs pays africains reprochent aussi à cette instance, créée par le traité de Rome en 1998, de concentrer essentiellement ses efforts sur l'Afrique. Le Burundi est le premier pays à quitter la CPI après un vote en ce sens de son Parlement la semaine dernière. Le président burundais Pierre Nkurunziza a confirmé cette décision par décret mardi, mais l'ONU n'a pas encore reçu la notification officielle.
En RDC, 12 militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, ont été interpellés aujourd'hui à Kinshasa alors qu'ils tentaient de déposer un mémorandum au siège de l'Union africaine dans la capitale congolaise. Les 12 militants, dont au moins une femme, ont été interpellés à quelques mètres du bureau de l'Union africaine, puis embarqués dans un jeep de la police par près d'une vingtaine d'agents. Dans ce mémorandum intitulé « L'Union africaine complice du coup d'État constitutionnel en RDC », adressé à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Lucha estime que le dialogue politique conduit sous la facilitation de l'Union africaine n'a fait qu'aggraver l'impasse politique dans le pays. En Côte d'Ivoire, des leaders de l'opposition interpellés jeudi ont été relâchés. Ses opposants manifestaient contre le projet de la nouvelle constitution qui sera soumis à un référendum à la fin du mois. Les détails avec Eric Manirakiza.
Ils ont été libérés hier, peu après leur interpellation dans l'après-midi. Mais ces opposants ne désarmaient pas pour autant. Regroupés dans le front du refus, ils ont souligné que le mot d'ordre est maintenu. Daniel Boni Claveri a appelé à un gigantesque meeting samedi à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, à peine relâché, a répété « Nous ne voulons pas de cette constitution », brandissant la menace de désobéissance civile. Ses opposants réclament le retrait pur et simple du projet de constitution. Ils accusent le président Alassane Ouattara de provoquer un projet de désaccord et de rupture sociale. Vendredi dernier, une autre coalition de l'opposition avait annoncé qu'elle boycotterait le référendum.
Au Niger, le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a fait état de défaillance après l'attaque djihadiste qui a coûté la vie à 22 soldats début octobre à Tazali, dans la région de Taroua. Il s'est rendu personnellement hier sur place pour évaluer la situation, John Lydon.
Mohamed Bazoum a visité les trois abris où les militaires ont été tués ainsi que le nouveau dispositif sécuritaire renforcé autour du camp des réfugiés. Il a déclaré devant des habitants à Tazalit, des représentants des réfugiés et des chefs militaires que la célérité avec laquelle l'attaque a été exécutée indique que ceux qui sont venus étaient bien informés sur les habitudes, les comportements de la garde, des habitants du camp. Le lieu était repéré à l'avance. L'action a été rapide. Il y a donc eu des défaillances, a déclaré le ministre nigérian de l'Intérieur. Pour Mohamed Bazoum, c'est la preuve qu'il n'y a pas eu de vigilance de la part de tout le monde, des soldats, des réfugiés et des habitants de Tazalit. Pour prévenir ce genre d'attaque, il a promis d'associer autochtones et réfugiés afin qu'ils fournissent le renseignement nécessaire aux forces de défense et de sécurité. Pour prévenir ce genre d'attaque, il a promis d'associer autochtones et réfugiés afin qu'ils fournissent le renseignement nécessaire aux forces de défense et de sécurité. Une attaque a été repoussée cette semaine contre la prison de haute sécurité de Kutukale où sont gardés plusieurs djihadistes. Et un citoyen américain travaillant dans l'humanitaire a été kidnappé la semaine d'avant dans la région de Tao.
Au Mali, grève dans le secteur de la santé. Depuis 5 jours, les médecins et les infirmiers ne travaillent pas. Les grévistes estiment que l'État malien refuse de satisfaire leurs revendications comme l'intégration dans la fonction publique des contractuels et l'augmentation de diverses primes. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le manque d'affluence au niveau des guichets d'entrée du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako a une raison. Jimmy Kanté, agent sanitaire au CHU Gabriel Touré de Bamako, membre du comité syndical.
Les revendications tournent essentiellement autour de trois axes majeurs, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'avènement d'une bonne gouvernance dans les structures sanitaires et l'amélioration des conditions de soins, d'accueil et d'hospitalisation des patients qui arrivent dans nos structures sanitaires.
Les usagers des centres de santé public pense que les 5 jours sont trop. Un avis partagé par Jimmy Kanté du comité syndical du CHI Gabriel Touré.
Une journée de grève pour un travailleur socio-sanitaire, c'est excessif. 2 jours, c'est trop. Et 5 jours, c'est vraiment inadmissible. Ça, nous le reconnaissons. Mais comment voulez-vous, lorsque le partenaire en face n'est pas vraiment prêt à soulager sa propre population?
Après ces 5 jours de grève, le syndicat national de la santé et de l'action sociale va tirer le bilan et adopter la conduite à tenir. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, on s'est dit disposé à faire le dialogue avec les syndicalistes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Éthiopie, les autorités ont procédé à l'arrestation de plus de 1500 personnes depuis l'instauration de l'état d'urgence le 9 octobre après la flambée de violence qui avait secoué le pays. Les précisions d'Anastasie Toudièche.
Selon le poste de commandement instauré pour l'état d'urgence, 1120 personnes ont été arrêtées au sud de la capitale Addis Abeba, 302 dans la ville de Gouji et 110 autour de Kelem Wolega. Selon les autorités, des centaines d'armes ont aussi été saisies. Toutes ces villes sont dans la région Oromo, où a débuté en novembre 2015 la contestation qui s'est étendue à la région Amara, où il y a eu aussi de nombreuses arrestations. Les Oromo et les Amara sont les ethnies majoritaires et contestent la domination sans partage du pouvoir depuis 25 ans par les Tigréens. La répression aurait fait des centaines de morts. Dans le cadre de l'état d'urgence, des restrictions strictes aux déplacements sont imposées. Il est aussi interdit de consulter certains médias d'opposition basés à l'étranger. Un couvre-feu est instauré autour de certaines usines, fermes agricoles et institutions. Plusieurs entreprises étrangères ont été attaquées par les manifestants ces dernières semaines.
Crise migratoire, les dirigeants des 28 pays de l'Union européenne veulent diminuer les arrivées et accélérer les renvois de migrants africains irréguliers par le biais de pactes avec certains pays africains. Plus de détails avec Nani Talani.
Les dirigeants de l'Union européenne, réunis hier en sommet à Bruxelles, cherchent à conclure des pactes migratoires avec 5 pays africains, dont le Niger, le Nigeria, l'Éthiopie, le Mali et le Sénégal. Pour la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, il faut faire plus d'efforts pour réduire le nombre de migrants irréguliers en provenance d'Afrique et améliorer les taux de retour de personnes ne pouvant prétendre au statut de réfugiés en Europe. Selon elle, les pactes doivent être gagnant-gagnant pour aider les pays africains à créer des emplois et éviter que la migration soit la seule perspective pour leurs citoyens. Madame Mogherini devra présenter en décembre à un prochain sommet les premiers résultats en termes d'arrivée et de retour. Il faudra être prêt avant le printemps, période traditionnelle de reprise des périlleuses traversées de la Méditerranée. La route migratoire via les côtes libyennes ne faiblit pas. Depuis le début de l'année, l'Italie a vu arriver sur ses côtes plus de 142 000 migrants.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump dit qu'il reconnaîtra les résultats du scrutin s'il gagne, mais se réserve le droit d'introduire des recours. Plusieurs leaders républicains dénoncent cette position. Timothée Donagmaï.
Le candidat républicain maintient ses accusations de fraude électorale sans fournir de preuves. Les autres républicains redoutent l'effet négatif de cette controverse sur leurs efforts pour préserver leur majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Dans une vigoureuse déclaration écrite, le sénateur John McCain de l'Arizona, candidat malheureux à la présidentielle de 2008, face au démocrate Barack Obama, martèle qu'accepter les résultats électoraux s'inscrit dans la tradition américaine. Dans diverses interviews télévisées jeudi, la directrice de campagne du candidat républicain, Kellyanne Conway, a fait savoir que Donald Trump a simplement mis en garde les Américains contre la fraude électorale. Il est disposé à accepter les résultats s'il n'y a pas de fraude généralisée, a-t-elle expliqué.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.